Alors, l'engrenage, c'est une structure tourangelle qui a un statut juridique peut-être un peu moins connu que les associations, qui est donc le statut coopératif. Donc, on est une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Ça, c'est l'ancien nom. Et puis maintenant, ils appellent ça Société Coopérative et Participative. En tout cas, c'est un statut juridique, donc on est sur un statut d'entreprise, mais une entreprise qui se pose la question de son éthique et qui aussi permet aux salariés, donc, c'est-à-dire à nous, d'être propriétaire de notre outil de travail, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actionnaire extérieur et on a la maîtrise des choix qu'on fait dans notre structure. Donc on est une SCOP, mais on est aussi, principalement notre activité, c'est organisme de formation et donc... Principalement, on se sert de la formation professionnelle et de la formation en général comme support pour faire vivre nos valeurs et ce qu'on a envie de faire pour changer la société, quoi, en gros.
Combien de salariés il y a dans cette SCOP, l'engrenage ?
Alors, depuis le début, on est 3 salariés. Alors, l'équipe a un peu changé. Moi, j'étais à l'origine, mais j'étais avec Philippe et Hervé à l'origine. Maintenant, il y a Cécilia et Tiffany qui ont pris le relais. Donc, voilà, on est 3 salariés. Et donc, les 2 anciens salariés, Philippe et Hervé, sont ce qu'on appelle associés non salariés. Ça veut dire qu'ils participent à la vie démocratique de la SCOP, mais ils font pas d'activité professionnelle dans la SCOP.
Vous vous décrivez comme une coopérative d'éducation populaire? Est-ce qu'on peut avoir une définition de ce terme qui est assez lourd pour nos auditeurs, oui, de comprendre coopérative d'éducation,
oui,
populaire?
Alors en plus, souvent, on dit coopérative d'éducation populaire politique parce que le terme d'éducation populaire, il se réfère à tout un courant historique, d'ailleurs à plusieurs courants historiques qui sont quand même très très vieux, dans lequel notamment toute l'histoire pour les jeunes qui ont 17 ans, de ceux qui passent le BAFA, là, tous ces organismes qui font passer le BAFA sont des organismes d'éducation populaire aussi. Donc nous, on dit d'éducation populaire politique au sens où, en fait, on s'approprie des pratiques et des façons de s'organiser collectivement qui nous permettent de critiquer le capitalisme, le sexisme, le racisme, mais aussi et surtout de s'organiser autrement démocratiquement pour pouvoir essayer de transformer la société pour qu'elle soit plus égalitaire et qu'elle permette de produire du droit, en tout cas des droits pour ceux et celles qui aujourd'hui subissent plutôt des discriminations et des oppressions dans la société.
L'engrenage, c'est donc une SCOP tourangelle, elle est née il y a combien de temps ?
Alors officiellement on s'est fabriqué sous statut SCOP en septembre 2012, mais cette structure existait sous statut associatif depuis fin 2010. À Tours, on a d'abord choisi de se mettre en association et puis de commencer notre activité. Et après, on a transformé l'association en SCOP. Et en fait, cette histoire-là d'éducation populaire politique, elle est un peu plus ancienne. Elle date de 2006 et elle vient plutôt de pratiques de Bretagne. Alors, en Bretagne, il y avait une structure qui s'est créée en 2006 qui s'appelle le PAVÉ. Qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui du coup s'est créé avec un collectif de personnes, notamment parmi eux quelques tourangeaux, qui s'est créé à Rennes. Et voilà, grâce aux travaux d'Alexia Morvan notamment, et de Franck Lepage, mais pas que, mais d'Alexia principalement, il y a eu beaucoup d'apports théoriques pour se réapproprier l'histoire de l'éduc-pop, plein d'histoires dans les courants ouvriers, les courants militants, les courants d'émancipation, en fait, où en gros on arrête de subir la société et plutôt on essaie de la fabriquer. Et en fait, de cette histoire-là est née des envies, des désirs dans d'autres territoires, et notamment nous à Tours, l'envie aussi de se retrouver un peu dans ce parcours-là et donc de fabriquer l'engrenage.
Justement, on parle de parcours, on peut savoir un peu ce que c'est, vous, votre parcours ?
Alors moi personnellement, moi j'ai arrêté, j'ai pas fait d'études, j'ai fait mon petit bac, voilà, bon an mal an, petit rattrapage, et puis après j'ai décidé de travailler parce que a priori j'étais pas encore prête pour faire des études. Moi j'étais animatrice socioculturelle, moi gros j'avais le BAFA à 17 ans, puis après à mon époque, dit la vieille, les emplois jeunes aidants, j'ai réussi à trouver du boulot tout de suite à temps plein, voilà. Donc j'ai travaillé plutôt comme animatrice jeunesse, et puis après animatrice dans les quartiers populaires, référente jeunesse, animatrice d'insertion pour les mineurs délinquants, après responsable d'un service jeunesse, après. Et puis après, j'ai rejoint une asso d'éducation populaire à Tours qui s'appelle STAJ Touraine, qui est une asso d'éduc-pop assez, assez militante, on pourrait dire. Mais mes collègues n'ont pas du tout le même parcours. Il n'y a pas du tout de profil type dans les coopératives. Ma collègue, elle a fait une thèse en sociologie, enfin en anthropologie. Mon autre collègue est éducatrice spécialisée. On a des collègues dans les autres coopératives parce qu'on est dans un réseau. On a d'autres collègues qui ont plutôt fait des études en sciences politiques, d'autres qui sont qui ont travaillé dans le social, d'autres qui ont été dans plein de métiers différents. Mais en tout cas, ce qui nous réunit, c'est plutôt nos parcours militants à côté, quoi. On va dire que c'est plutôt ça qui fait notre CV, quoi. C'est pas nos diplômes ni notre expérience.
D'ailleurs, à t'entendre, j'ai l'impression que justement, cette richesse de parcours très différente, c'est ce qui fait la vie aussi un peu de vos coopératives, parce que du coup, vous avez tous à vous apprendre des choses d'où vous venez, et en fait, vous apprenez en faisant. Est-ce que c'est important, ça ?
Ouais, c'est sûr qu'on va dire qu'à chaque fois... Enfin, là, par exemple, je vois... moi, j'ai pas un parcours... d'étudiante, donc en fait j'avais pas un rapport à la lecture, au savoir théorique ou à la sociologie très facile. Et c'est vrai que de travailler avec Hervé, qui était mon premier collègue, qui était du coup qui a fait de la sociologie aussi, de se raconter comment est-ce qu'on peut réussir sur des thématiques à transmettre des savoirs par le biais de la formation, de se raconter bah tiens tu regarde cet apport théorique là, regarde cette recherche-là, comment elle peut nourrir. En fait, nous, on a beaucoup de savoir pratique. Et en fait, on a essayé de construire avec les autres membres des coopératives et nous, dans notre équipe, construire de se réapproprier des savoirs théoriques, notamment sociologiques, mais pas que, hein, en sciences de l'éducation aussi, pour effectivement s'instruire nous-mêmes, s'auto-former, on va dire, et puis pour pouvoir rendre accessibles des savoirs et des principes, je dirais presque politiques, en fait, des enjeux politiques de société, de les rendre accessibles pour, dans les formations. Donc ouais, ça a vachement de sens de... au parcours. Donc il y en a qui ont été des militants plutôt dans le syndicalisme, d'autres qui ont été dans l'anti-nucléaire, anti-OGM, d'autres qui étaient plutôt dans les parcours féministes, d'autres dans les squats, d'autres qui ont plutôt des parcours un peu plus sciences politiques et qui ont été plutôt impliqués dans des partis politiques. Donc ça fait vraiment un mélange, très... Ouais, ça nourrit beaucoup, ça c'est sûr. Carrément.
S'instruire pour se révolter alors ?
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, rendre accessible le savoir, pas seulement parce que c'est important de savoir, mais surtout parce que quand on sait, on arrive mieux à se défendre, on arrive mieux à prendre conscience aussi de ce qui nous opprime, de ce qui nous oppresse, et du coup, on arrive mieux à faire bouger les choses. Et se révolter, c'est au sens aussi d'arrêter de... Il y a un peu un principe dans la société qui dit, tout le monde est pessimiste, en gros, il n'y a rien qui va bouger, tout ça. En fait, il y a plein de choses qui ont bougé déjà. Il y a plein de nouveaux droits qu'on acquiert au fur et à mesure. Si putain, nous, les femmes, on avait lâché l'affaire il y a 50 ans, si on se conscientise collectivement, si on arrive à s'organiser, surtout collectivement, la révolte, elle permet de lutter contre les discriminations, les oppressions qu'on subit au quotidien. Je prenais l'exemple des femmes, c'est valable pour les jeunes aussi.
Et du coup, aujourd'hui, vous êtes éducatrice au sein de la SCOP L'Engrenage. C'est quoi votre rôle exactement ?
Alors nous, on a choisi dans notre coopérative d'avoir un modèle autogestionnaire. Donc en fait, on a choisi d'avoir des salaires égalitaires et de ne pas avoir de système hiérarchique qui organise notre travail. Donc on a un système coopératif, donc on est trois à faire le même métier. Et donc on va dire que 60% de notre activité, c'est de faire des formations ou des accompagnements de collectifs ou des animations de temps collectif, donc ce qu'on appelle tout le processus de formation. Et 40% de notre temps, c'est tout le travail administratif, pédagogique, comptable, gestion ressources humaines, gérance, qui permet de faire fonctionner la structure pour qu'on arrive à se payer à la fin du mois. Parce que l'objectif, c'est que on arrive à avoir une certaine autonomie, mais parce qu'on vit que des prestations que l'on vend. Donc en fait, il faut quand même réussir à en vendre pour pouvoir se payer à la fin du mois.
Vous l'avez évoqué brièvement, vous faites partie d'un collectif, d'une association, La Grenaille, avec trois autres structures populaires sur Rennes, Grenoble et Toulouse.
Ouais.
Comment vous est venue l'envie de vous réunir, en fait ? Dans quel but ?
En fait, c'est parti comme le pavé à Rennes était un peu la première structure et que... Alors nous, on a un peu une histoire particulière parce que voilà, on s'est créé sous forme associative et on avait pris les devants. Mais nos collègues de Toulouse et de Grenoble, eux, ils ont vraiment été aussi accompagnés par le pavé dans leur structuration. Et donc rapidement, comme on était sur les... En tout cas... le même type de pratique et des enjeux politiques communs et qui était aussi un peu à l'époque dans les années 2006-2010, on était un peu pas très bien reconnue, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les grands mouvements d'éducation populaire, la vraie éducation populaire, et nous, on était un peu en mode oui, vous êtes des, un peu radicaux, vous êtes un peu énervés. Et donc, nous, on s'est dit qu'aussi, en s'organisant collectivement, en s'instruisant aussi collectivement, puis en se racontant aussi ce qu'on fait, et puis aussi en se disant, bon, bah voilà, on peut faire des choses ensemble. Donc, par exemple, quand il y a. Je sais pas moi, un plan qui est à, je sais pas, à Bordeaux, bah c'est pas forcément Toulouse qui y va ou pas forcément Tours, mais c'est un de chaque quoi qui y va, et comme ça on travaille ensemble, on se réunit de temps en temps, on fait des pas des séminaires, mais ça a des noms bizarres, ça dépend comment on appelle ça, mais on a nos propres noms de nos rencontres, mais du coup on se rencontre, on parle de nos fonctionnements, mais aussi on parle de, je sais pas, des voilà, en ce moment avec toutes les questions sur la laïcité et l'instrumentalisation de la laïcité, surtout pour provoquer de l'islamophobie notamment, ou en tout cas du racisme, c'est sûr. On a eu envie l'année dernière de se réunir et de collecter nos savoirs là-dessus, et puis de, du coup réfléchir dans nos futures formations quelle forme ça va prendre. Donc en fait on est ensemble parce que bah on a du commun dans nos pratiques, puis surtout aussi ouais, effectivement d'être à plusieurs on est plus fort quoi.
Dans une semaine, le jeudi 3 novembre à Bléré, il y a une conférence gesticulée Inculture 1. On peut en savoir un petit peu plus ?
Alors oui, parce qu'effectivement, de cette histoire-là dont on parlait, notamment du pavé, mais aussi des coopératives, est née un peu cette idée qu'il fallait rendre accessible du savoir critique, au sens critique de la société, critique anticapitaliste, quoi, anti-sexiste, etc. Et donc, Franck et d'autres, mais notamment Franck, conceptualiser un peu l'idée de rendre, de mélanger un peu du savoir théorique, du savoir universitaire notamment, avec du vécu, de l'expérience, du récit, pour en fabriquer une sorte d'objet un peu bizarre qui ressemble à un spectacle. Donc c'est pour ça que ça s'appelle, souvent les gens ils appellent ça du théâtre. Ça peut ressembler à du théâtre, mais ça peut ressembler aussi à une conférence théorique, un peu comme un conférencier. Donc ça s'appelle une conférence gesticulée. Donc il y en a aujourd'hui. Alors Franck, lui, il en propose 3 différentes, mais aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine, parce qu'on forme des gens à fabriquer leurs propres conférences gesticulées. Et donc, la semaine prochaine, on a Franck Lepage, donc, qui vient jouer sa conférence gesticulée, qui s'appelle « Inculture 1 », qui est « L'éducation populaire, monsieur, ils n'en ont pas voulu », et qui raconte un peu l'histoire de la culture et de l'éducation populaire, et qui raconte justement comment un peu l'histoire des mouvements d'éducation populaire, et aussi de la place du projet et du management un peu dans cette histoire-là, et comment est-ce qu'on peut regarder un peu autrement notre histoire aujourd'hui. Donc c'est très drôle parce que le récit autobiographique fait qu'il y a de l'autodérision, donc c'est très drôle, et puis comme c'est incarné aussi de la vie de cette personne, et donc Franck il va nous parler de Poirot, voilà, donc on va parler de Poirot, mais surtout de culture et d'éducation populaire. Et donc on a été sollicité par la ville de Bléré, qui avait envie de s'autoriser à faire venir une conf gesticulée, et donc on leur a proposé de mettre ça en œuvre avec eux. Donc on propose Inculture 1, donc c'est jeudi prochain, c'est au centre socioculturel à Bléré. C'est à 19h30 parce que la conf gesticulée elle est un petit peu longue. Mais bon, comme c'est trop bien, on n'a pas envie de partir. Mais surtout, et aussi, une conférence gesticulée, elle prend beaucoup plus de sens quand on fait l'atelier qui va avec. Et donc, le lendemain, on propose un atelier. Celui-là, c'est un atelier qui s'appelle « Désintoxication de la langue de bois ». Donc, c'est l'idée d'aller regarder d'un peu plus près dans la langue véhiculée par les médias, par les politiques, par nous aussi au quotidien, ou par les techniciens, ou dans les métiers aussi, de regarder un peu qu'est-ce qu'elle cache cette langue, et de se refaire plaisir en la critiquant et en pouvant s'outiller, même s'organiser pour s'en désintoxiquer. Donc voilà, ça ce sera gratuit. Et la soirée à Bléré, c'est ce qu'on appelle à prix libre. Donc en fait, c'est en fonction de ce que tu as dans ton porte-monnaie et sur ton compte en banque. Tu mets ce que tu peux, ce que tu veux. Voilà. L'idée, c'est que ça va financer à la fois le salaire de Franck, mais aussi ses frais de déplacement. Voilà.
Vous organisez aussi des formations. Elles s'adressent à qui ?
Alors, donc les conférences gesticulées, de toute façon, c'est grand public, tout public, voilà, les ateliers aussi. Les formations, c'est plutôt ce qu'on appelle tout public, mais on va dire que c'est quand même des adultes, en général. Donc, selon les thèmes qu'on propose, ça peut être des bénévoles dans des associations, des militants, des syndicalistes, mais aussi et surtout des professionnels, en général, donc quel que soit le milieu. Donc, parfois, chargés de mission environnement, des chargés de mission culture, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, et puis on va voir des enseignants, puis on va voir d'autres métiers complètement différents. Hein. Parfois, on a des métiers complètement différents. Donc ça, on propose des formations tout au long de l'année. Il y en a une qu'on propose du 15 au 18 novembre là, à Tours, qui s'appelle « Vers des pratiques d'éducation populaire », c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se réapproprier des pratiques collectives pour refaire du sens, se réapproprier des savoirs, etc. Donc celle-ci, elle est vraiment ouverte à tout le monde. Simplement, il faut s'inscrire et payer. On fait aussi des tarifs militants parce que les gens s'inscrivent surtout sur des fonds à la formation. Vous savez, quand vous êtes salarié, quand vous commencez à être salarié, vous cotisez directement pour produire des droits à la formation professionnelle tout au long de la vie. Et donc, c'est sur ces droits-là que vous pouvez payer ce type de formation. Mais si vous n'avez pas de droits parce qu'en ce moment, vous êtes étudiant ou chômeur, etc., ou retraité, ou d'autres cas où vous avez déjà utilisé tous vos droits, on a des tarifs militants qui permettent d'aller sur des formations à partir de 50 euros pour les 4 jours, entre 50 et 150 euros. Mais c'est pas le vrai prix. Le prix réel, c'est 700 euros, quoi. Donc voilà. Et donc ces formations-là, y en a un peu. On a un catalogue, on en fait un peu tout au long de l'année. On en a en gros 5, 6, 7 dans l'année sur des thématiques, sur la participation, sur ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. En gros, sur comment des habitants, des gens en général peuvent s'organiser pour reprendre du pouvoir et puis transformer des choses dans leur cadre de vie. Mais aussi des choses autour de l'espace public, autour de l'éducation, la domination des adultes sur les enfants, des choses sur une vieille technique d'éducation populaire qui s'appelle l'entraînement mental pour essayer de penser un peu dans la complexité. Donc il y a plein de choses. Donc ça, c'est un peu tout public qui s'adresse à nous de façon individuelle, quoi. Et puis sinon, on fait des choses sur mesure. Donc en fait, un syndicat, une collectivité, une association nous dit, dans notre équipe, on se pose cette question-là, est-ce que vous pourriez venir former notre équipe ? C'est ce qu'on appelle les trucs sur site, quoi, formation sur site, sur mesure. Donc là, on fait du sur mesure. Par exemple, on va aller accompagner des délégués du personnel dans une grosse structure de travail social à mieux s'organiser pour mieux mobiliser, pas forcément pour syndicaliser plus, mais pour s'organiser aussi pour faire du contre-pouvoir dans l'entreprise, dans la grosse association. Mais ça peut être aussi une association qui accompagne des jeunes autistes qui sont assez nombreux dans l'équipe, mais puis parfois il leur manque un peu de fluidité dans leur organisation. Voilà, on va faire un stage qui s'appelle Travailler en équipe, et du coup on les accompagne, on se réoutille avec eux pour que ça fonctionne mieux entre eux, quoi.
Mais donc là, c'est les associations ou autres qui font la démarche de venir vers vous.
C'est ça, associations, collectivités, syndicats, collectifs informels, peu importe. Et voilà, ils nous passent un petit coup de fil, enfin plutôt un mail, parce que le téléphone ne répond pas tout le temps, mais plutôt un mail, et puis ils nous demandent, est-ce que vous pouvez venir nous faire ça ? Puis on dit en général oui.
Comment vous arrivez à organiser justement entre les formations, les différents événements que vous organisez, qu'on vienne faire appel à vous en plus ? Comment vous vous organisez en interne ?
Eh bien, c'est un beau casse-tête avec un agenda collectif. On va dire qu'on a imaginé, ce qu'on a envie de faire, c'est de faire des choses dans le long terme avec des gens, c'est-à-dire de pouvoir revenir plusieurs fois avec ces collectifs-là. Mais ça, c'est un idéal, en fait. Donc souvent, des fois, on est sollicité pour une journée, deux journées. Donc on essaye aussi, de se tirer un salaire, on essaye un peu de regarder combien de jours de travail en face à face avec des gens on peut faire. Et puis, on a essayé d'imaginer ça. Et puis, en fait, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc en fait, les gens nous sollicitent. Et puis après, on se positionne, on voit si on a les capacités pour faire la formation ou l'accompagnement. Et puis si on a envie, parce que par exemple, on a déjà des sollicitations parfois en Belgique, où là, on est allé en deux années de suite, on est allé en Guyane. Faut avoir envie de se faire deux jours de trajet pour aller faire une formation. C'est en Guyane, donc c'est un autre intérêt. Mais parfois c'est à Mulhouse, parfois c'est à, je sais pas moi, je prends des exemples, à Saint-Étienne ou je ne sais où. Donc il y a les conditions de travail pour mener à bien le travail. Et puis il y a aussi la thématique. Parfois, on va refuser d'intervenir parce que les gens, soit ils attendent trop de nous, ou alors ils n'ont pas compris qui on était. Et ils n'avaient pas compris qu'on allait être politisé, au sens de la critique sociale, pas au sens d'un parti politique. Mais... Donc parfois, on refuse parce que les gens, ils n'ont pas compris et ça ne va pas bien se passer. Mais en général, les gens qui nous sollicitent, ils savent à qui ils ont affaire. Donc on s'organise, on répond aux sollicitations et on essaie de faire entrer ça dans l'agenda. Et puis on essaye de faire ça bien. C'est sûr qu'il y a des mois où on ne travaille pas beaucoup, puis il y a des mois où on ne travaille pas beaucoup. on voit pas beaucoup de public. Et puis il y a des mois où on passe toutes nos journées avec des groupes, ça dépend.
Le programme ou le catalogue des différentes formations que vous proposez, il est disponible quelque part pour nos auditeurs ?
Il est disponible sur notre site, il est disponible donc en ligne. Et puis après, nous on essaye de, alors sur Tours un petit peu, mais c'est pas là où on bosse le plus. Donc après on essaye de le diffuser un peu partout. On édite quand même un certain paquet, parce que c'est un programme qui est commun avec nos autres coopératives. Donc il est quand même édité sur papier, donc il est dit sur Tours, on le trouve dans quelques bars connus, ou militants, je sais pas comment on peut dire, mais sur internet, ça se télécharge en deux secondes. Quoi.
Et parce que du coup vous dites que c'est pas que sur Tours, parce que votre ouais. espace de...
Oui, bah, parce que du coup on travaille un peu sur, on va dire que chaque structure, on a une sorte de zonage, hein, donc on va dire, nous on est la région centre, plus un peu le Limousin, le Poitou-Charentes, plus un peu la région parisienne. Et puis Grenoble, ils sont vers Lyon, Marseille, et puis Toulouse, ils sont vers Toulouse-Bordeaux, puis Rennes, ils sont sur la Bretagne et la Normandie, mais bon, Lille, tu vois, c'est le territoire de personne, puis parfois Rouen, voilà, c'est pas forcément plus près de Rennes que de Tours, donc voilà, on est amené à bouger sur tout le territoire, ça dépend de nos sollicitations, quoi.
Mais du coup, le fait de faire partie de la grenaille, ça permet de pouvoir intervenir dans toute la France.
D'agir dans toute la France, voilà. Et c'est pour ça que voilà, des fois, on a des sollicitations dans les dom-tom ou en Belgique et en Suisse, dans les pays francophones, quoi.
Vous venez aussi de sortir un livre intitulé « Éducation populaire et féminisme ». On peut en parler ?
Ouais. Alors, c'est pas l'engrenage qui l'a sorti. On va dire que c'est les femmes... qui sont dans les structures de la grenaille. Donc il y a 11 femmes, dont je fais partie, qui ont écrit ce bouquin. Donc c'est une production de la grenaille, donc du réseau, mais écrit uniquement par des femmes. Et qui fait écho à notre réalité. En fait, on a des belles intentions dans l'éducation populaire politique, hein, on a une bonne critique, mais parfois, même en interne, on arrive à... De même que on critique le capitalisme et pourtant on a choisi un statut d'une société et donc on peut s'auto-exploiter, et bien de même, même si on est assez aguerri sur la question du féminisme et du sexisme, et bien même à l'intérieur de notre groupe, et bien y a l'une de nous a subi une agression sexuelle et donc on a décidé d'en tirer un savoir populaire, d'en tirer un savoir qui puisse servir à la fois à d'autres collectifs, à d'autres femmes, et puis qui puisse servir aussi à rendre accessibles les magnifiques savoirs des luttes des femmes, quoi.
Alors, je crois qu'on peut préciser quand même pour nos auditeurs que ce livre, il n'est pas du tout question d'être voyeur ou de raconter je ne sais quoi. Déjà parce que vous avez fait le choix d'anonymiser en partie les personnes qui sont dedans. Il y a un choix délibéré, donc tu pourras nous dire pourquoi. Et puis, l'idée, c'est vraiment de revenir sur ce qui est arrivé, de comprendre pourquoi c'est arrivé dans votre réseau, qui a priori, on pourrait supposer... que ça ne devrait pas y arriver.
C'est ça.
Et je crois que dans la deuxième partie, tu expliques, enfin vous expliquez d'ailleurs, toutes les choses qu'on peut peut-être mettre en place ou réfléchir pour faire les choses différemment.
En fait, on a eu un regard qu'on appelle chez nous matérialiste. Mais bon, c'est au sens marxiste du terme. Enfin, en gros, on essaye de regarder dans la... En fait, on ne regarde pas les individus, on va pas regarder la psychologie de l'agresseur, la psychologie de l'agressé, etc. Ça, on s'en fout, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder comment la structure, elle a permis ça. Et donc, c'est un peu ça qu'on... C'est pour ça que c'est pas... Effectivement, c'est anonymisé. Mais aussi, on a décidé de relater, en fait, tout ce qui en amont et autour, en fait, a produit ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas parlé au début? Pourquoi on se l'est pas empoigné? Pourquoi on n'a pas réussi à virer... Enfin, si je peux parler comme ça, à virer l'agresseur parce qu'il avait commis une faute sur son lieu de travail. Pourquoi on n'avait pas de savoir en fait juridique alors que on accompagne des collectifs. On essaie de raconter un peu tout ça et puis du coup d'analyser aussi qu'est-ce que ça a produit dans notre groupe. Comment est-ce que nous, les femmes, on s'est emparées de ce truc-là pour aussi s'émanciper et avoir de nouveaux savoirs. En fait, on a réussi à faire rentrer du coup dans nos pratiques d'éducation populaire beaucoup plus de savoirs, et de savoirs notamment des luttes féministes qui sont hyper riches, qui nous servent au quotidien. Et donc la deuxième partie, c'est plutôt comment est-ce qu'on s'outille, en fait, comment est-ce qu'on regarde un peu tous les aspects, parce qu'on pourrait regarder l'aspect médiatique, parce que par exemple, un problème dans nos coopératives, c'est que quand on dit conférence gesticulée, c'est Franck Lepage qui ressort, donc c'est lui le théoricien de l'éducation populaire politique, alors que bon... Franck, il a un super outil et qui est la conférence gesticulée. Il a produit des savoirs, mais il y a beaucoup plus de savoirs qui ont été produits par les femmes dans ce réseau-là, notamment par Alexia Morvan, et que du coup ça c'est invisible parce que les médias ils reproduisent systématiquement la tête d'affiche qui donc c'est un peu outillé. On a regardé aussi comment est-ce qu'on peut dans un groupe un peu regarder aussi sur les prises de parole. Tiens, c'est marrant, il y a beaucoup plus d'hommes qui parlent, en tout cas ils parlent plus facilement. Pourquoi? Qu'est-ce qui joue là-dedans? Pourquoi quand on part en formation la question logistique, tiens c'est marrant, c'est souvent les meufs qui s'en occupent, ou alors la question de ceux qui sont malades, qui est-ce qui prend des nouvelles de ceux qui sont malades, et donc d'essayer de voir, forcément c'est plutôt les femmes, mais c'est pas par une question de nature, hein, c'est parce que socialement on est construite et déterminée comme ça, et donc on a essayé d'analyser du coup dans cette deuxième partie des outils et des trucs qui nous servent, en tout cas qui j'espère vont servir à des collectifs quoi.
Oui c'est ça, du coup je pense que vous arrivez très bien tout à montrer à quel point cette domination masculine qui aujourd'hui fait encore un peu rigoler et à quel point elle est pernicieuse et ancrée en fait dans nos mentalités, et même chez les femmes qui après tout vont lire ça et vont dire oh peut-être. Ah bah quand même, il n'y a pas de quoi en faire un bouquin, c'est quand même pas très grave, ça arrive, c'est courant. Bah justement, c'est grave de se dire que c'est pas
courant. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, après là, il y a beaucoup, ça commence en ce moment, on commence à en reparler, mais même il y a 3-4 ans, c'était quand même des questions qui étaient complètement invisibles dans la société, la question des inégalités hommes-femmes. La question des violences faites aux femmes, c'est énorme, le nombre de femmes qui sont violées tous les jours. On peut pas se le cacher. Et ce qui était intéressant à regarder aussi, c'est qu'en fait, tout entre nous, là, les 11, on en parle un peu, on a raconté aussi un peu des... Ça nous a obligés aussi à nous raconter qu'est-ce qu'on avait vécu. Et en fait, on s'est rendu compte que tout, on avait subi des agressions sexuelles. Et pourtant, on est plein dans des villes différentes, dans des milieux différents. Et qu'en fait, qu'est-ce qui explique ça, quoi? Et du coup, on est allé beaucoup plus loin pour expliquer ça et de se dire, si on est dans des coopératives d'éducation populaire, en fait, comment est-ce qu'on voit la chose et comment est-ce qu'on peut se réapproprier des savoirs féministes pour aussi outiller des collectifs et notamment se conscientiser collectivement, quoi. Le bouquin, il a aussi pour but de se redonner de la puissance ensemble, que ce soit les hommes et les femmes, pas que les femmes, et puis aussi de permettre à des hommes ou des femmes de prendre conscience de cette domination qui n'est pas forcément le fait de toi ou de moi, mais d'une structuration de la société qui fait que c'est présent, quoi.